La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, sommes-nous devenus des forts en anathème ? Nous expérimentons depuis quelques décennies un retour du religieux. La sécularisation se transforme peu à peu en une post-sécularisation. Le ciel prendrait ainsi sa petite revanche sur le siècle. Cette revanche est en même temps un vrai retour de flamme. Pas seulement celui de la flamme des bougies, mais aussi de celle des balles, des bâtons d'explosifs, sans oublier celle des bombes généreusement larguées sur un échiquier géopolitique compliqué. Nous vivons aussi le grand retour des anathèmes et des imputations de blasphème. Chaque jour, des partisans de la liberté d'opinion, d'expression, de croyance sont condamnés et exécutés. Ces lancers d'anathèmes, on le sait bien, peuvent tourner au jeu de massacre. Face à cette situation, un diagnostic est souvent proclamé. Tous ces problèmes seraient d'origine religieuse. Autrement dit, plus de religion, plus de problèmes. D'où la thérapie de choc qui est parfois proposée. Il faudrait frapper d'anathème les religions. Comment sortir de ce piège circulaire? Comment empêcher que les lancers d'anathème ne provoquent, par une sorte de réaction en chaîne ou d'effet boomerang, d'autres lancers d'anathème? Pour discuter de ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Clavier. Bonjour Paul Clavier.
Bonjour Étienne.
Vous êtes philosophe, vous enseignez l'histoire de la métaphysique et la philosophie de la religion à l'École normale supérieure. J'ai toujours autant de mal à comprendre comment on peut être à la fois normal et supérieur, même quand on est une école, mais ce n'est qu'un problème personnel. Vous avez la réputation, Paul Clavier, de ne vous intéresser qu'à de toutes petites questions, parmi lesquelles on trouve le concept de monde, le bien, le mal et même carrément Dieu. Les auditrices et les auditeurs se souviennent que vous avez été notre premier invité pour la première édition de la Conversation scientifique. C'était le 6 septembre 2014. Je n'en menais pas large. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir pour un livre que vous venez de publier qui s'intitule « Anathème, blasphème et compagnie, au-delà des caricatures ». Est-ce que vous avez conscience, Paul Clavier, qu'il s'agit d'un livre drôle, enfin, sinon drôle, du moins enjoué et tonique ? À propos d'un sujet qui est assez grave.
Heureusement que je me rends compte que le livre est drôle, parce que si j'avais fait rire sans le vouloir, je ferais rire uniquement à mes dépens. Mais il me semble que, étant donné les crispations et les angoisses qui se répandent comme une traînée de poudre, c'est le cas de le dire, sur notre planète, il est bon de pratiquer un regard un petit peu éloigné et, sans tomber dans la dérision, faire un petit peu d'humour. C'est d'ailleurs une façon d'affirmer que le terrorisme ne gagne pas, c'est de continuer à sourire, non pas à rire d'eux, mais à chercher à rire avec le maximum de personnes. Rire de nos faiblesses aussi, hein, de nos réactions parfois hâtives. Justement, ce lancer d'anathème dont vous parliez, c'est un sport national, international. Dès qu'il y a un problème, il faut trouver la catégorie coupable, socio-professionnelle. Alors, c'est le patronat, non, c'est les étudiants, non, c'est les infirmiers. Non, et alors, on est dans l'accusation. Et je pense que l'humour est une façon de sortir de cet esprit d'accusation et de dire, bah, attendez, on n'est pas parfait, on a peut-être raté quelques coches, mais en sachant rire de nous, on va peut-être songer à s'améliorer et améliorer nos conditions de vie collective.
Alors, Paul Clavier, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un blasphème ? La définition officielle, s'il y en a une, puisque le mot est galvaudé, est-ce qu'il a un sens théologique, par exemple, particulier ?
C'est délicat, parce que, de même qu'il n'y a pas la religion ou une essence de la religion, mais des pratiques religieuses, des pratiques rituelles, des pratiques sacrificielles, avec des interdits. Eh bien, parmi ces interdits, il y a l'interdiction de mal parler de Dieu, ou de mal parler au nom de Dieu, ou de proférer des paroles qui blesseraient la divinité. Je me permets de faire une parenthèse, je ne vois pas comment une divinité vraiment solide serait blessée. Je pense qu'il faut être un petit peu sérieux. Et alors, comme on est dans une émission qui s'intitule « La conversation scientifique », certes, les questions métaphysiques et religieuses ne relèvent pas directement de l'expertise scientifique. En revanche, il est permis d'être un petit peu rationaliste et d'interroger les tenants et les aboutissants de ces fameux interdits. Et j'étais en train de dire que je conçois qu'une communauté veuille protéger ses ces dieux de la dérision ou de l'attaque d'autres communautés, mais dire que on offenserait Dieu, par exemple, on offense plutôt les croyants, hein, lorsqu'on tente de ridiculiser.
Vous voulez dire que Dieu est au-dessus de ça?
Vous savez, c'était ce que répondait Clémenceau par rapport à ces questions qui, déjà, sous la Troisième République, agitaient un petit peu les esprits. Le délit de blasphème existe, hein, dans les États concordataires. Bon, en fait, il tombe plus ou moins en désuétude, hein. Mais l'idée, est-ce qu'on peut porter atteinte à la réputation de Dieu ou de la divinité, ou de Krishna, ou que sais-je encore, en parlant mal, en disant que c'est une infâme superstition? Et Clémenceau répondait, Dieu se défendra bien tout seul. Je pense qu'il y a une grande sagesse. Alors, je ne suis pas pour autant en train de réclamer, à façon Caroline Fourest, un droit absolu au blasphème, comme si c'était ça la chose la plus sacrée. Je crois que le droit de vivre en paix est prioritaire.
Mais est-ce que c'est pas contradictoire de dire qu'il y a droit au blasphème, que c'est sacré, tout en contestant l'idée que le sacré soit protégé de toute attaque?
Oui, alors je pense qu'il faut pas prendre au pied de la lettre l'expression de Caroline Fourest lorsqu'elle dit que le droit au blasphème, c'est le droit le plus sacré. C'est une façon de dire que il faut pas nous l'enlever, on n'a pas à nous l'enlever. Je ne pense pas que Caroline Fourest tombe dans le piège d'avoir une religion de l'irreligiosité, même si parfois elle peut en donner l'impression. Mais là je pense que ce serait faire un mauvais procès à ceux qui défendent avec un certain courage et parfois un certain panache la liberté absolue d'expression. Ce serait leur faire un mauvais procès que de leur dire « Oui, bah, vous aussi, vous voyez, vous avez quelque chose de sacré, vous aussi, vous avez votre religion. »
Donc on est à peu près au clair sur le blasphème, sur l'anathème.
Alors l'anathème, là encore une grande diversité anthropologique, ethnologique et dans l'histoire des religions. Mais grosso modo, l'anathème a commencé par désigner une offrande ou une dépouille d'un combat qu'on suspendait, c'est le sens du préfixe « ana » dans anathème, qu'on suspendait à une colonne par exemple, hein, témoigner que ça appartenait désormais au divin, à Dieu ou au Dieu en cas de polythéisme. Et alors petit à petit, l'anathème étant non seulement une offrande mais parfois une victime, quand on lance l'anathème sur quelqu'un ou sur quelque chose ou sur une ville par exemple, c'est qu'on considère que voilà, on a tous les droits sur elle du moment que on l'offre. Alors dans l'Ancien Testament, il y a des villes entières qui sont déclarées anathèmes, et alors du coup, quiconque va puiser dans le butin de ces villes est puni, hein, sévèrement. Le Concile de Trente se termine par une salve d'anathèmes, hein, anathème à tous les hérétiques, comme ça on ne fait pas de détails. Et il semble que donc les traditions religieuses aient pas mal fonctionné avec ce type de stigmatisation, hein. Soit touchant les dogmes, soit touchant les personnes, elles sont anathèmes, elles se sont mises en marge et du coup, on les dénonce. Et c'est sans doute les moments où l'esprit d'accusation l'emporte que les esprits se troublent le plus.
Est-ce que le verbe existe, Paul Clavier, anathématiser, ça existe?
Ça, il faut demander à l'Académie.
Non, je ne l'ai pas trouvé dans votre livre et je me demandais si c'était une invention, si on pouvait le...
On peut, en tout cas, il est clair, on comprend anathématiser. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, on a l'impression, alors moi, c'est un thème sur lequel j'essaie de réfléchir, on pourrait en conclure que tout ça montre bien que dans toute religion, il y a toujours ce danger d'une violence, hein. Ce sont les thèmes de René Girard sur la violence sacrée avec lesquels je ne suis pas tellement d'accord, comme s'il y avait forcément dans toute pratique religieuse une part d'ombre, de mystère, de connivence avec un absolu destructeur, comme s'il y avait toujours un ange exterminateur qui, comme ça, veillait sur l'âme du croyant ou de la croyante. Je pense qu'il est temps quand même de... quitter cette idée qu'il y a toujours une part maudite dans les religions et qu'elles sont forcément, parce qu'elles ont affaire à une communication avec l'absolu, qu'elles sont forcément engagées dans des manœuvres, des règlements de compte terribles, des excommunications spectaculaires, voire des massacres religieux. Il est temps de dissocier la quête religieuse, qui est légitime lorsqu'elle n'est pas délirante, et la violence. Alors, je sais que l'histoire me donne tort, mais l'histoire n'est pas terminée.
Alors, Alors avant d'aborder cette question qui constitue le nœud de votre livre, et pour retourner à cette idée de blasphème, vous faites remarquer que le blasphème des uns peut être le dogme des autres.
Oui.
Et donc, dès lors qu'on est dans cette situation, le jeu de ping-pong que j'évoquais, ou les retours de boomerang, ou les réactions en chaîne que j'évoquais dans mon introduction, semble obligatoire.
Ouais. Alors, puisque justement, c'est impossible. Alors, c'est pourquoi, à mon avis, si le blasphème concerne une croyance, alors on va prendre un exemple précis, il y a des religions dans lesquelles le Dieu ou les divinités s'incarnent. Trouver ça dans l'hindouisme avec les avatars de Krishna ou de Vishnu, pardon, et également dans le christianisme. Et puis des religions dans lesquelles c'est considéré comme souvent impossible. Vous dites à un musulman que Dieu existe véritablement en chair et en os dans la personne, par exemple, de Jésus de Nazareth, vous êtes forcément blasphémateur. Je pense que le blasphème, s'il est considéré comme une règle de conduite propre à un dogme religieux, une croyance religieuse, ben, ne doit concerner que les croyants. Libre à un club d'interdire qu'on prononce tel mot ou pas. Du moment qu'on le fait sans contrainte et dans le respect inconditionnel des droits de la personne humaine, bon, dans un club, vous pouvez dire, nous formons un club ici, on n'a pas le droit de prononcer tel nom, on n'a pas le droit de dire ça.
Dans un
parti politique, par exemple. On ne doit pas faire référence à la lutte des classes, on doit parler uniquement des mérites du rendement du capital, ou le contraire. Bon, voilà, chacun a ses anathèmes. Mais attention, lorsqu'on prétend à l'universalité, alors là, je pense qu'il faut repartir du seul dénominateur commun qui existe entre tous les êtres humains, et qui est la raison, la faculté de raisonner, d'argumenter, de discuter.
Oui, dès la page 3, vous dites que l'homme est un animal rationnel.
Oui.
Est-ce que vous en êtes sûr?
Qu'est-ce que vous appelez la raison? En un sens, je n'en suis pas sûr, parce qu'à la limite, c'est un énoncé universel. Alors on pourrait me dire, mais attendez, voici des êtres humains qui, visiblement, n'exercent pas leur rationalité.
Vous jetez l'anathème sur ceux qui ne sont pas
irrationnels. Non, je les invite, et je dis de toute façon, la seule possibilité d'imaginer dans ce grand village planétaire, mais avec des quartiers quand même bien, bien séparés les uns des autres, de vivre une paix digne de notre vocation d'être humain, hein, c'est de repasser par cette rationalité. De se demander qu'est-ce qui est un fondement de l'obligation, qu'est-ce qui est respectable, qu'est-ce que j'ai le droit de ne pas respecter, et du coup de délimiter et de limiter du même coup les accusations de blasphème et les lancers d'anathème.
Mais que devient la raison lorsque tout le monde a ses raisons?
Alors justement, je pense que on a trop souvent confondu l'invocation de la raison avec l'invocation des intérêts ou des raisons. Alors c'est vrai que chacun peut dire, mais nous on a des raisons d'affirmer telle foi, nous avons des raisons d'affirmer le caractère absolu de la liberté d'expression. Et ce qu'on appelle ici raison ne sont que les intérêts ou les rapports de force, hein, des uns et des autres. Alors le dénominateur commun que j'invoque sous le nom d'usage de la rationalité n'est pas du type les causes ou les intérêts ou les mobiles que telle communauté ou tel individu choisit de favoriser. C'est véritablement l'espace de discussion par lequel on met à plat les définitions, de quoi on parle, quels sont les arguments qu'on emploie, sur quel droit peut-on tabler, quelles sont les sources de l'obligation morale des individus humains les uns envers les autres, est-ce qu'on peut définir une plateforme commune, et on n'y est peut-être pas encore arrivé, mais enfin je ne vois pas d'autre perspective, hein, que cette détermination rationnelle, la raison étant ici définie comme la faculté d'argumenter sur la base de prémices partageables. Alors évidemment, si on ne parle pas des mêmes prémices, si quelqu'un me dit, oui, vous savez, il existe deux humanités, l'humanité croyante et l'humanité incroyante, l'une a le droit de maltraiter l'autre, alors évidemment, on n'a pas de prémisse commune. Hein. Je ne suis pas naïf au point de croire que l'appel à la raison va convaincre celui qui ou celle qui, généralement, en suivant des intérêts géopolitiques et un agenda plutôt politique que religieux, hein, il y a toute une instrumentalisation du religieux dont il faudrait évidemment faire la part, hein, mais j'ai pas la prétention de convaincre cette personne. En revanche, je suis persuadé que nous sommes tous très responsables, et notamment dans les milieux de l'éducation et de la culture, de cette facile dérive extrémiste que le judaïsme, le christianisme ont connu, que l'islam connaît encore, mais il n'est pas le seul. Hein. N'oublions pas que les retours très réactionnaires du religieux n'ont pas lieu simplement dans le monde musulman. Eh bien, nous sommes tous responsables de cette confusion entre religion et violence lorsque nous laissons dire, de toute façon, vous savez, la croyance, c'est irrationnel, c'est la part de rêve, d'absolu, on peut rien discuter. Non, je pense qu'il y a un devoir d'examen. Hein. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'enfermer la quête religieuse dans les limites de la simple raison, mais de préserver en tout cas cet espace de discussion. Enfin, je ne vois pas d'autre dénominateur commun, je ne vois pas d'autre logiciel partageable hein, que celui des définitions des arguments. À quoi avons-nous affaire ? De quel droit puis-je prendre votre vie, Étienne Klein, ou de quel droit pouvez-vous disposer de la mienne ? Hein, ça, c'est la base. Alors ensuite, si quelqu'un fait l'expérience du divin, de Dieu, de Krishna, ce que vous voulez, j'ai envie de dire, et plus si affinité, mais sans que ce socle d'obligation rationnelle des êtres humains les uns envers les autres ne soit contesté. Et mais je dirais donc qu'il y a une exigence de rationalité, y compris dans le développement des religions.
Mais Paul Clavier, il faut une sorte d'autorité pour pouvoir, d'une part définir, d'autre part imposer ce socle commun à toute l'humanité.
Alors, il ne s'agit pas de l'imposer, il s'agit de le proposer. Mais je pense qu'il y a quand même des arguments, alors qui ne sont pas des arguments d'autorité, mais pour le proposer. Et je voudrais citer ici celui de Diderot. Alors, vous allez me dire, vous choisissez mal, parce que je doute que les responsables de toutes les religions s'inclinent devant l'autorité de Diderot. Mais écoutons quand même cet avis de Diderot qui dit « Lorsque Dieu... de qui nous tenons la raison, en exige le sacrifice, c'est un faiseur de tours de gypsière qui escamote d'une main ce qu'il a donné de l'autre. » Qu'est-ce que ça veut dire ? La plupart des religions...
Par cœur. Je vois que vous la connaissez par cœur,
ah
cette
oui, mais je l'aime
citation.
Beaucoup, je l'aime beaucoup. Je vais vous dire pourquoi. La plupart des religions considèrent que l'autorité de Dieu, le fait que nous lui devions quelque chose, est sa position de créateur. Nous lui devons l'existence, c'est lui l'auteur de tous les bienfaits, alors il faut quand même aussi expliquer les méfaits. Généralement, les religions disent « Ah oui, c'est ça, c'est le jeu de la liberté humaine, et donc c'est pourquoi nous endurons parfois la souffrance, voire le malheur, de la part de nos soit de nos co-religionnaires, soit de nos frères et sœurs en humanité qui usent mal de la liberté qui leur est donnée. » Mais en gros, le principe, c'est que la dévotion à Dieu, la foi que l'on place en Dieu est la réponse à sa seigneurie au fait qu'il est le créateur. Bon, eh bien, ici, on peut commencer à raisonner en disant, attendez, quel Dieu absurde, quel Dieu méchant et donc pas du tout digne d'obéissance serait celui qui, en créant les hommes, en leur donnant un instrument qui est la réflexion, hein, demanderait aux uns de détruire les autres sous prétexte qu'ils n'exercent pas la réflexion de la même manière qu'eux. C'est pour ça qu'il ne croit pas la même chose. Un tel Dieu, hein, j'y vais carrément, hein, je dis un tel Dieu est un Dieu qui n'est pas crédible, qui mine les propres fondements de sa crédibilité. Et du coup, c'est peut-être une conception très romantique, Dieu peut me demander n'importe quoi, de mettre le feu à la maison de la radio, etc. Mais non, je suis désolé, ça c'est un mauvais Dieu. Et par conséquent, un mauvais Dieu, aussi romantique qu'il soit de le suivre par amour, hein, ou parfois, un mauvais Dieu n'est pas digne d'obéissance. Donc, je
vous
pense
dites,
qu'on a...
vous consacrez même un chapitre entier à cette question. Vous dites qu'il faut faire valoir que toute religion prétendant la vérité doit passer au filtre de la raison. Est-ce que vous pouvez un exemple ? Pardon, prenons la religion catholique ou bien musulmane. Qu'est-ce que le filtre de la raison dans lequel cette religion passerait l'obligerait à modifier dans ses discours, dans ses pratiques ? Donnez-moi un exemple.
Il y a pas mal de choses.
Le filtre de la raison appliqué à une religion.
Oui, dans l'affaire qui nous concerne, c'est est-ce que un croyant, alors vous prenez l'exemple de confession catholique ou de confession musulmane, ou d'une des confessions musulmanes, puis il y en a plusieurs, ne l'oublions pas, peut, au nom de sa foi, tuer ou détruire la vie d'un de ses semblables. Si vous n'appliquez pas le filtre de la raison, vous pouvez dire, après tout, Dieu est le maître. C'est lui à qui nous devons tout, soumission totale, il peut ordonner un massacre, je n'ai qu'à obéir. Le petit doigt sur la couture du pantalon, et comme disait Lyautey, quand les talons claquent, le cerveau se vide. Bon. Si vous appliquez ce fil de la raison, vous dites non. Un Dieu qui crée le monde et qui permet, puisque c'est lui responsable, qu'il y ait une diversité historique de croyances, etc., hein, doit assumer. Et il ne peut pas me dire... tue ou détruis ceux qui ont offensé mon nom ? Parce que moi, je peux lui répondre, si je réagis rationnellement, et je crois que c'est un devoir hein, inaliénable et sacré hein, de réagir avec sa raison, que nous avons reçu par hypothèse de Dieu, de lui dire, fais le sale boulot toi-même. Donc c'est... Fais le sale boulot toi-même, parce qu'il est absurde que tu me mettes dans une situation où je dois détruire celui qui est un autre moi-même, et dans lequel seul, à la limite, le hasard de l'éducation, de la culture, du conditionnement social, économique, familial et autres, fait que lui est un croyant et moi un mécréant, ou l'inverse.
Donc le commandement « tu ne tueras pas » est un produit de la raison.
Alors, vous savez que c'est une controverse qui a eu lieu dans l'époque médiévale. Les gens se sont demandé, des théologiens, mais pas seulement, se sont demandé si les 10 paroles, la table des 10 commandements, étaient de raison naturelle ou de raison révélée. Et alors, les thomistes, pour ne citer que, disent non, l'intégralité des commandements ne fait que C'est une piqûre de rappel, mais pour donner le code rationnel de ce qu'on appelle une loi naturelle, une loi morale naturelle, hein, qui dit simplement une chose, la vie, nous la recevons, donc nous la respectons, on autrui en nous, etc. Nous ne pouvons pas nous emparer du bien d'autrui, porter faux témoignages, c'est détruire, c'est nier le lien social, etc. Bon. Et par conséquent, ils disaient, c'est rationnel. Et rationnel au même sens où, par exemple, Cicéron, hein, qui est un philosophe païen, entre guillemets, hein, ainsi qu'un certain nombre de stoïciens, considèrent que il y a une loi, un droit naturel qui est de ce type-là. Et donc, l'idée, c'est que ces fameux 10 commandements, qu'ils aient ou non été révélés avec le tonnerre et les éclairs du Sinaï, n'est-ce pas, hein, sont en fait un code de bonne conduite qui est rationnellement défendable.
Pour que la vie humaine soit vivable.
C'est une perspective interne, oui, bien entendu. C'est une façon d'exercer la raison. Des penseurs comme Saint Augustin le disent, ou d'autres, au fond, c'est une piqûre de rappel. Les êtres humains, les communautés humaines ayant semblé privilégier l'appropriation violente du bien d'autrui, etc., le Créateur dit, attendez, on va quand même vous rappeler les règles du jeu, hein, avant d'aller plus loin dans d'éventuelles révélations, parce que je ne nie pas l'éventuelle pertinence d'un cheminement ou d'une vocation de l'être humain à rencontrer son Créateur, pourquoi pas, mais d'abord, garantissons le régime commun.
Mais est-ce que vous pensez qu'on est sur la bonne voie, c'est-à-dire, Paul Clavier, est-ce que vous pensez que la gravité de la situation que vous avez décrite fait que la prise de conscience va engendrer ce passage par le filtre de la raison? Ou est-ce qu'au contraire, quand la situation a tendance à s'aggraver, chacun se replie sur ses propres valeurs et tend à les imposer par la force, avec de plus en plus de violence?
Alors, Étienne Klein, vous avez malheureusement raison. Et j'espère que vous n'avez pas raison sur toute la ligne. Moi, j'aime bien citer cette remarque du biologiste Jean Rostand qui disait « Tout homme est mon frère tant qu'il n'a pas parlé ». C'est-à-dire que c'est vrai que si, quand je raisonne comme ça, a priori, je dis, attendez, il n'y a aucune raison.
Je fais juste remarquer que vous avez beaucoup plus parlé que moi jusqu'à maintenant.
Oui, oui, oui. Bon. Mais j'espère que vous me considérez encore comme un frère en humanité.
Absolument. Allez-y.
L'idée est la suivante, c'est que en raisonnant avec un petit peu de recul, on se dit, bon, écoutez, nous sommes les membres d'une même famille humaine, c'est ce que dit le préambule de la déclaration de l'ONU.
Est-ce que ça va de soi? C'est-à-dire, est-ce que le fait de penser l'humanité comme une va de soi pour tout le monde?
Non, je ne dis pas que ça va de soi pour tout le monde, je pense que c'est accessible à tout le monde. Un petit peu, alors évidemment, si vous êtes élevé dans une communauté extrêmement fermée, qui vous dénonce de façon paranoïaque toute information étrangère comme ennemi, bon, d'accord. Bien sûr, et là vous subissez un conditionnement, mais je dirais que ce n'est pas le régime normal d'une trajectoire.
C'est pas normal, mais c'est réel.
Oui, nous sommes là, mais c'est pour ça que je vous dis, vous avez malheureusement raison, hein, que l'idéal d'une élucidation rationnelle de la condition humaine n'a pas toujours le vent en poupe. Mais est-ce que c'est une raison pour renoncer? Moi, je trouve qu'au contraire, le monde de la culture, des médias, de l'éducation sont là pour éveiller les consciences et faire en sorte que le moins de personnes possibles puissent un jour se dire « C'est vrai, le monde est divisé en créant, en mécréant, et les uns ont droit de taper les autres. » Donc, à chaque fois que nous pouvons réconcilier ce qu'est un engagement de foi avec l'exigence rationnelle, il y a, de toute façon, s'il y a un créateur, il n'y a aucune raison qu'il fasse une différence entre ces créatures, je pense que nous sommes sur la voie d'un désamorçage de ces bombes idéologiques, hein, qui ne sont pas uniquement d'ailleurs des métaphores, mais pètent bel et bien ici et là dans notre monde.
J'ai beaucoup, enfin, je me suis beaucoup amusé, pas le terme, mais j'ai
passé. Vous pouvez
lire votre livre. Vous parlez à un moment, c'est page 19, du jeu de poule, renard, vipère. Est-ce que vous pouvez en rappeler les règles et en quoi il vous intéresse cet exemple?
Au début du livre, je m'interroge sur les règles du jeu d'un vivre ensemble.
Les règles du jeu pour tous.
Voilà. Et il y a plusieurs règles du jeu. Et par contre, il y a une règle qui serait celle de la chaîne alimentaire, qui a l'air équilibrée, mais à mon avis, qui est très efficace de façon descriptive, mais qui ne peut pas être une norme. Le jeu de poule, renard, vipère, c'est une variante du jeu de chat perché, là. Mais au lieu qu'il y ait un chat et des souris, que les souris puissent se libérer les unes les autres, ce qui est déjà quand même pas mal, c'est l'invitation à une solidarité, hein, l'exposition au danger partagé. Ces jeux sont vraiment des lieux où nous apprenons le vivre ensemble. Dans une cour de récréation, on apprend ce que c'est que le lien social. Le jeu de poule, renard, vipère est un peu plus subtil. Et vous avez trois groupes, les poules, les renards, les vipères. Alors, il faut les habiller de façon reconnaissable quand même, hein. Bon, c'est pas du camouflage. Et l'idée, c'est que les poules peuvent attaquer ou manger les vipères. Je sais pas si elles les mangent, donc elles les neutralisent. Les vipères tuent les renards et les renards mangent les poules. Et l'idée, c'est que si, alors chacun doit jouer son rôle, et évidemment, le renard a intérêt à fuir les vipères, mais à se précipiter sur les poules ont intérêt à aller attaquer les vipères, mais en évitant les renards, et ainsi de suite. Quand on joue à ce jeu, on s'aperçoit rapidement que si je suis une poule et que je tue toutes les vipères, alors les renards pullulent, puisqu'ils ont perdu leur prédateur, et je suis bouffé par le renard. Donc, quand je suis poule, j'ai intérêt à ne pas tuer toutes les vipères. C'est l'idée d'un équilibre dans la chaîne alimentaire. Ben, si ça, c'était le modèle de l'existence humaine, de la cohabitation humaine, ça serait assez dramatique. Ça veut dire que nous sommes livrés uniquement à ces lois d'adaptation et de struggle for life, qu'il n'y a rien d'autre. Et que je ne respecte la personne d'une autre société, d'une autre religion ou même d'une autre famille, tout simplement.
Parce qu'il me débarrasse d'autres.
Uniquement parce que si je tue toutes mes proies, alors ces proies qui étaient susceptibles de faire baisser la reproduction de mes prédateurs, je vais me retrouver avec trop de prédateurs. Si c'est ça la leçon de vivre ensemble, alors malheureusement ça y ressemble, hein. Regardez les conflits actuels. Bon, alors il y a la Russie, la Syrie, alors bon, il y a des proies, des prédateurs, mais alors on va pas trop taper sur la proie, parce que sinon le prédateur de la proie, voilà. Hein. Mais alors j'espère qu'il y a autre chose à proposer que cet algorithme qui est finalement un algorithme du meurtre bien compris.
Mais j'ai l'impression que ce raisonnement est quand même très actif, même s'il n'y a pas que lui.
Ouais. Ben vous avez raison. C'est finalement, tout homme est mon frère tant qu'il n'a pas parlé, mais dès qu'on se met à parler d'intérêt, de pétrole, etc., voilà, bon, alors là, on dit ben, poule, renard, vipère. J'espère qu'au fond, les êtres humains sont capables d'autre chose que de ces rapports d'intérêt pur et simple. Vous savez, c'est les vieux sujets de dissertation qu'on donnait tout le temps autrefois, intérêt et raison. J'espère que l'exercice de la raison ne se réduit pas à l'exercice d'un calcul de nos intérêts bien compris.
Alors, vous parlez d'Albert Camus à la fin du livre, philosophe de classe terminale, comme on l'a dit trop souvent. Vous pouvez être remarqué qu'on peut faire de la très bonne philosophie en classe de terminale.
Je l'espère, et je salue tous nos collègues.
Alors, le professeur de philosophie de mon fils qui est en terminale lui a proposé comme sujet « La diversité des cultures est-elle une menace pour l'unité de l'humanité ?»
Beau sujet.
Beau sujet, comment vous le traitez? Parce que c'est le sujet de votre livre.
Oui,
si on remplace le mot culture par religion, et si on met les deux ensemble, on arrive à la même question.
Eh bien, moi, je dirais que la diversité en tant que telle est capable du meilleur comme du pire. Si la diversité est une diversité qui divise ultimement. Si véritablement, parmi les cultures, certaines prétendent que, je sais pas, il y a des races supérieures, ou qu'il y a un droit de prendre la vie d'autrui comme ça, autre que la légitime défense. Si on passe de la légitime défense à la légitime défonce, alors je pense que la diversité contient un poison pour la coexistence humaine. En revanche, si la diversité des cultures me permet de découvrir tel pan de l'expérience humaine que j'avais négligé, je pense par exemple à l'usage que les Indiens, en Inde, font de la nourriture. Le caractère, la gratitude avec laquelle, avec les mains, à main nue, ils prennent. C'est un bel enseignement. Nous, on est en train de courir après le bio et d'essayer de retrouver quelque chose de sain dans notre mode de consommation. Eh bien là, dans l'orchestre de l'humanité, vous avez un pupitre gastronomique indien qui est intéressant et qui joue sa partition avec un immense respect de la denrée alimentaire et dont nous avons tous à prendre. Alors ça, cette diversité-là, elle est effectivement très précieuse. Et elle permet, non pas de diviser, mais de réunir des pans de l'expérience humaine. La notion de liberté individuelle et de droit au respect de la personne individuelle, qui est très occidentale, elle aussi, elle mérite d'être connue. Hein, et pas simplement comme prétexte pour capter des ressources des minières ou des hydrocarbures, hein, parce que c'est le grand reproche formulé par beaucoup de pays dits émergents à la doctrine des droits de l'homme, c'est qu'on nous dit, oui, c'est le paravent que vous avez utilisé pour venir faire la police, faire le gendarme et prélever des pourcentages sur nos productions, etc. Bon, si c'est que ça, évidemment, on est encore dans les intérêts et on est encore dans le jeu de poule, renard, vipère. Mais si cette diversité des cultures est la recherche de ce qu'il y a de meilleur dans chaque pupitre de l'orchestre mondial, alors oui, allons-y, et la symphonie qui en sortira ne sera que plus belle.
Vous écoutez France Culture, la conversation scientifique par Étienne Klein.
Clavier, vous avez lâché le mot, j'allais vous poser la question, mais en quoi votre thèse, votre analyse se différencie-t-elle d'une politique des droits de l'homme ? Alors, ou d'une défense d'une politique des droits de l'homme ?
Alors, elle se différencie, alors là vous allez trouver que c'est peut-être un... enfin, comme vous avez lu, vous êtes au courant, mais vous avez évoqué tout à l'heure l'idée qu'on dit « Ah, toutes les guerres sont religieuses, supprimons la religion, il n'y aura plus de guerre ». C'est un peu ça, c'est un truc qui revient. Là. Bon. Et moi, j'ai dit, attention, il ne faudrait peut-être pas jeter le bébé avec l'eau du bain.
Je ne faisais que...
Les droits de l'homme, la notion de droit de l'homme, est peut-être beaucoup plus justifiée alors sur un mode théiste, sur le mode de la religion des philosophes. Alors, vous allez me dire, alors, on retombe au Moyen-Âge. Alors, j'espère que non. D'ailleurs, dans le Moyen-Âge, ce Moyen-Âge qui affirme qu'il y a rationnellement des obligations de tout homme envers tout homme, hein, ce Moyen-Âge, à mon avis, mérite d'être revisité. Hein. Mais l'idée, c'est que, sur quoi fonder les droits de l'homme ? Au fond, n'importe qui aujourd'hui, puisqu'on dit que tout est irrationnel, vous dites, bah, écoutez, bah, vous avez une doctrine des droits de l'homme, mais nous, on ne l'a pas. Hein. Et puis, votre doctrine des droits de l'homme a servi trop souvent à couvrir vos intérêts strictement économiques ou géopolitiques, donc nous n'y croyons pas. Donc, sur quoi fonder la doctrine des droits de l'homme ? Et je pense que là, il est bon de relire des auteurs comme Camus, mais déjà aussi comme Voltaire, qui disent « Attendez, la raison vraiment contraignante que j'ai de respecter en un autre membre de la famille humaine un frère, c'est que nous avons une origine commune, un père commun. Si cette origine est uniquement... parce qu'elle existe aussi, mais uniquement une affaire de d'évolution, de molécules, etc. Ben, je disais, nous n'avons pas d'obligation envers des états de la matière. Le fait que nous soyons constitués du même ADN, etc., ne génère aucun droit, aucune obligation. Et c'est peut-être en se réconciliant avec les perspectives théistes, donc ce noyau non confessionnel des religions monothéistes, par exemple, hein, ou même du brahmanisme également, hein, eh bien, c'est là que nous pouvons retrouver une source d'inspiration, mais rationnellement discutable, et pas simplement « Moi, j'ai un trip religieux, je crois que nous sommes tous frères, et moi, j'ai un trip comme quoi mon Dieu m'a dit d'éliminer ceux qui ne croient pas comme moi. » Donc, là, la tâche est importante, hein, retrouver, ça veut dire que... derrière les droits de l'homme, hein, leur fondement, hein, c'est celui que Jefferson, hein, la déclaration des droits de l'homme, la déclaration de Pittsburgh, c'est que tous les hommes sont créés égaux et doués par leur créateur de certains droits inaliénables.
Mais si je comprends bien, ça veut dire que pour vous, Paul Clavier, raisonner les religions, comme vous le proposez, c'est la même chose que promouvoir la religion des philosophes ?
Oui, et je trouve que c'est tout à fait la perspective que je développe. Et il faut cesser d'opposer dans une sorte de drame pascalien le dieu des philosophes, qui serait le mauvais dieu, le méchant dieu, comme ça, hein, et le dieu des croyants, hein, le dieu du sacrifice, le dieu de la rêverie, le dieu de l'absolu et du risque que je fais surtout courir aux autres. Non, si Dieu existe, il n'a pas 50. Alors ensuite, que ce dieu, par hypothèse, Dieu des philosophes, un être, un agent surnaturel auquel l'univers doit son existence. Hein. Si ce Dieu choisit de se révéler, tant mieux pour lui, tant mieux pour les destinataires de cette révélation, mais il me paraît absolument contradictoire que ce Dieu se révèle de façon totalement inégalitaire, injuste, au point d'exiger de ceux à qui il se révèle, de détruire les autres à qui il ne s'est pas encore révélé.
Mais est-ce que ça ne va pas déplacer le problème ? C'est-à-dire, est-ce que tous les philosophes seraient d'accord à propos de la religion des philosophes ?
Eh bien,
est-ce qu'ils ne vont pas produire des blasphèmes, des anathèmes, et on sera reparti pour un tour ?
Mais non, parce que justement, alors, je suis d'accord, je décale le problème d'un cran. Hein. Nous avons besoin, pour coexister...
C'est le pouvoir des philosophes.
Nous avons besoin, pour coexister, non pas d'un consensus, mais d'une recherche convergente des philosophes sur les fondements des droits de l'homme. Le fondement, est-ce que c'est uniquement un fondement historique parce que les constituants ont dit en présence et sous les auspices de l'être suprême, l'Assemblée déclare les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, etc. Non. Est-ce que c'est uniquement historique ? Il faut que ça soit un fondement conceptuel. Je suis bien d'accord avec vous qu'on est loin d'un consensus. La philosophie se dit généralement, à 80% athée. Il y a un cinquième de gens qui disent... Mais il faut ne pas confondre l'aspect confessionnel et l'aspect théiste. Et les questions deviennent à des limites très simples, c'est vrai qu'elles sont exigeantes. Est-ce que ça a un sens de dire que nous existons par nous-mêmes ? Que tout existe par nous-mêmes ? Si tel est le cas, je veux bien, c'est une possibilité. Mais alors, la conséquence, c'est que je ne dois rien à personne. Si je ne dois mon existence à personne, je ne dois rien à personne et je ne vois pas pourquoi il y aurait des soi-disant droits qui, là, pour coup, peuvent être le paravent d'intérêts géopolitiques. Là, c'est la vieille idée voltairienne. Hein. Qu'on lise un peu ce traité qu'on cite souvent, mais qu'on ne lit pas beaucoup, le traité sur la tolérance, Voltaire. À la fin, il dit oui, le fondement de l'obligation que j'ai, c'est que nous devons l'existence. Ah, alors, on l'appelle un père des cieux, l'éternel, le brahman, qui vous voulez. Hein. Mais le fondement des droits de l'homme, me semble-t-il, hein, c'est cette dépendance. Sinon, on pourrait même dire, ah non, non, moi je veux les droits de l'homme secs, sans fondement théiste. Très bien, mais ce n'est plus qu'une idéologie.
C'est le droit de l'hommisme.
Oui. Hein. Si tout le monde se tenait à cette doctrine des droits de l'homme, bah, tant mieux. Mais aujourd'hui qu'elle est contestée, nous avons besoin de retrouver son fondement s'il existe.
Donc si l'on ne doit rien à personne, ça donne ce que vous venez de dire. Et si l'on ne croit à rien, cela donne quoi ?
Alors,
je vous rappelez la fameuse citation de Camus, je vais me permettre de la lire. Camus écrit ceci, « Si l'on ne croit à rien, si rien n'a de sens... Et si nous ne pouvons affirmer aucune valeur, tout est possible et rien n'a d'importance. Point de pour ni de contre, l'assassin n'a ni tort ni raison, on peut tisonner les crématoires comme on peut aussi se dévouer à soigner les lépreux. Malice et vertu sont hasard ou caprice. »
Alors, fin de citation. Là, c'est Camus dans L'homme révolté. Moi, je chemine avec Camus à sa suite, hein, parce que d'abord, je trouve que c'est un auteur méjugé, mal connu, considéré comme, vous le disiez tout à l'heure, auteur pour classe terminale. Et encore une fois, eh bien, pourquoi pas, si c'est un bon auteur, et qui a le courage, hein, en pleine philosophie de l'absurde et en pleine mode existentielle, de dire, attendez, s'il n'y a rien d'absolu, alors je ne peux plus faire la différence. Hein, ça ne veut pas dire que je serais forcément méchant entre tisonner les crématoires et soigner les lépreux. Il n'y a plus de différence entre un tyran abominable et Mère Teresa. C'est juste des choix de vie, c'est mon choix, ça se discute, etc. Bon. Alors évidemment, c'est dommage. Et Camus part à la recherche d'un fondement non confessionnel, hein, mais d'une forme d'exigence absolue. Et au fond, je pense que toute personne qui lira L'homme révolté, ou du moins les extraits que j'en propose dans mon livre, aura peut-être davantage envie de se réconcilier avec l'idée que c'est pas idiot de connecter, de rebooter la doctrine des droits de l'homme avec la doctrine théiste du Dieu des philosophes.
Ça veut dire qu'il faut réinjecter une forme d'absolu dans ce qui nous apparaît comme relatif.
Alors, c'était très étonnamment ce que Sartre, à la fin de sa vie, confie à Simone de Beauvoir. Elle l'interroge sur Alors, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Sartre répond, un peu contre toute attente, hein, ah ben, Dostoïevski, à qui on a attribué cette parole dans Les Frères Karamazov, il a abstraitement vrai. Et tenez-vous bien, c'est quand même assez étonnant, Sartre dit ceci, la morale, c'est l'absolu dans le relatif. Et il cite d'ailleurs justement le meurtre. Tuer un homme, je cite Sartre, est mauvais, absolument mauvais. L'idée, c'est que l'obligation morale des êtres humains les uns vers les autres, ou bien elle est juste une convention, et bien, en ce cas-là, je ne suis pas tenu par les conventions que je n'ai pas signées, ou bien elle a un caractère impératif, absolu, mais dans ce cas-là, c'est quoi cet absolu, sinon le dieu des philosophes ? Là, je pense qu'il y a une cohérence que nous pouvons retrouver. Et encore une fois, il ne s'agit pas, alors pour le coup, il ne s'agit pas de croire. Il s'agit de reconnaître. De reconnaître que, ne fût-ce très probablement, si j'ai des obligations envers autrui, c'est parce que nous devons tous, collectivement, encore, si j'ose dire, nous devons l'existence à quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Mais quelque chose ne va pas parce qu'on n'est jamais obligé envers une chose. On ne peut être obligé qu'envers quelqu'un. On peut être obligé d'ailleurs qu'envers un bienfaiteur. Donc il faudrait avoir des raisons, et la discussion philosophique, je suis d'accord, est ouverte, des raisons d'affirmer que tout compte fait, malgré la façon dont nous exerçons notre humanité, l'existence humaine reste un bienfait. Si elle n'est pas un bienfait, alors là je suis d'accord avec Comte Sponville, version tragique, hein, et version tragique et adoption d'un relativisme. Comte Sponville est l'un des rares penseurs français d'aujourd'hui qui assume son relativisme. Les gens disent souvent « Ah non, on ne veut pas d'absolu ou conflit, mais par contre, droit de l'homme, droit de l'homme. » Mais pourquoi ? Et que répondez-vous à quelqu'un qui vous dit « Il n'y a pas de droit de l'homme, hein, il y a des déchets d'un côté et puis des croyants de l'autre. » Je pense qu'il faut retrouver le lien entre... Et en plus, ça permet d'avoir un argument contre celui qui dit « Mais c'est au nom du principe supérieur que je te détruis. » Je veux dire, mais non, vous n'avez aucune raison d'obéir à un principe qui se contredit lui-même.
Est-ce qu'il n'y a pas un problème pratique, Paul Clavier ? Comment faire pour que les philosophes, et c'est ce que vous réclamez, reprennent la main ?
Eh bien, vous l'avez un peu dit tout à l'heure.
Ils ne sont pas d'accord entre eux, ils s'opposent sur ces questions.
Mais le fait qu'il y ait divergence, dans tous les domaines d'ailleurs, dans beaucoup de domaines, ne signifie pas qu'il n'y a pas une convergence à rechercher. Hein. Nous sommes des êtres rationnels, je l'espère, mais nous sommes aussi des êtres historiques. Donc, il y a un certain nombre de blessures, de malentendus qui se sont durablement installés et qui font que, voilà, dès qu'on parle de Dieu, les gens disent « Ah, ça y est, ça va finir par une forme de fanatisme absolu. » Moi, j'invite les auditeurs de France Culture à relire un certain nombre de textes. Alors, c'est pas pour faire de la pub, mais j'en ai cité quelques-uns dans Anathème, Blasphème et compagnie, les textes des pères fondateurs de la Troisième République, qui, tout en étant assez anticonfessionnels et assez anticléricaux, affirment, hein, Jules Simon en tête, hein, que nous avons des obligations envers Dieu, hein, Troisième République, envers Dieu, envers les autres hommes et envers les animaux. Il y a, dans l'école laïque de la République, il y a une très grande sagesse, hein, et ce sont des textes qui ont été... étudiés, ressortis de façon tout à fait intéressante, hein, selon lesquels on n'est pas enfermé dans le dilemme entre athéisme radical et superstition définitive.
Vous citez également Simone Veil à la fin de votre ouvrage.
Oui, alors Simone Veil, c'est quand même un exemple de philosophe qui est assez imbu de rationalité, de géométrie, d'exigence, et puis alors d'exigence concrète, hein, au service de toutes les formes d'oppression sociale ou politique, et qui dit au fond, mais sur quoi je peux fonder le respect inconditionnel que je dois à autrui ? Eh bien, c'est sur ce qu'elle appelle pudiquement la réalité étrangère au monde.
Elle rédige un prélude à une déclaration des obligations envers tout être humain. Elle la rédige en 1943, elle est à Londres.
Ouais,
Je cite le début. « L'objet de l'obligation dans le domaine des choses humaines est toujours l'être humain comme tel. Il y a obligation envers tout être humain du seul fait qu'il est un être humain, sans qu'aucune autre condition ait à intervenir, et quand même lui n'en reconnaîtrait aucune. Ouais, » Est-ce que ça, c'est une idée partageable, universalisable ?
Alors, elle est
facilement,
moins...
et si la réponse est oui, pourquoi ne l'a-t-elle pas été ?
Alors, elle est partageable universellement, et nous avons encore tous du chemin à faire pour qu'elle soit partagée, effectivement. Il y a des moments dans l'histoire, alors j'en renvoyais tout à l'heure aux travaux de Pierre Ognier sur l'école sans Dieu et l'invention de la morale laïque sous la Troisième République, hein, un travail de universitaire de 2008, qui est tout à fait remarquable parce qu'il montre bien que, certes, il y a eu des malentendus, des abus de pouvoir et qui ont créé entre les confessions religieuses dans notre pays, c'est principalement l'Église catholique, et les pouvoirs, la démocratie républicaine en marche, il y a eu des conflits, il y en a encore, hein, mais l'idée, c'est que si l'on arrête de regarder ces conflits et si l'on cherche la source d'inspiration commune à l'obligation morale, eh bien, on peut tomber sur un théisme qui est compatible avec donc les développements religieux, à condition que on s'en tienne à l'interdiction absolue d'exercer la violence au nom de Dieu lui-même.
Peut-être pas en mon pouvoir de stopper les attentats, dites-vous, il est certainement à ma portée de manifester concrètement ce souci des plus petits.
Ouais, je pense que la question posée sur de l'obligation, je l'ai posée en termes très généraux, l'obligation inconditionnelle de tout homme envers tout homme, c'est la question qui doit quoi à qui. Je pense que le comportement avec mes voisins, avec SDF dans la rue, etc., je ne veux pas faire de la petite morale, mais c'est là que ça commence. Le regard que je pose sur une personne voilée dans un supermarché, c'est là que je peux exercer dignement mon humanité et non pas tomber tout de suite dans le soupçon en disant « Ah voilà, c'est des terroristes qui s'ignorent, ils se radicalisent, etc. » Bon, non. Évidemment, ça demande une certaine endurance parce que parfois, on tombe effectivement sur des gens qui abusent, on ne construit pas une société sur le soupçon, hein, on ne construit pas un vivre ensemble sur l'accusation, hein, on ne réprime que ce qui est avéré en fait de transgression, c'est-à-dire en fait d'atteinte à l'intégrité physique et morale des autres personnes, et pour le reste, évidemment, on espère, là je ne peux pas être autre chose que quelqu'un qui espère, que les progrès de l'honnêteté intellectuelle, de la transparence rationnelle, continue à imprégner nos comportements, hein. Mais ça commence avec mes voisins, hein. C'est pas uniquement des grands principes immortels.
Il y a une forme d'optimisme chez vous, Paul Clavier, une sorte de foi dans l'avenir, on pourrait dire,
oui,
de l'humanité.
Ça comme ça, oui.
Mais vous l'avez expliqué, vous voulez raisonner les religions. C'est un livre que j'ai lu intégralement. À aucun moment vous ne parlez de science. Est-ce que c'est délibéré ou quel rapport faites-vous entre la science et la religion? Je suis obligé de vous poser la question puisque cette émission s'appelle La Conversation Scientifique.
Alors,
quel est le rôle des sciences dans tout ça? Est-ce qu'elles peuvent aider au fait de raisonner les religions ou est-ce que c'est un domaine qui est à part du débat que vous évoquez?
Alors, c'est délibérément que j'ai considérer que c'est deux sujets orthogonaux, car, alors, vous le savez, puisque c'était l'objet de la première émission que nous avons ensemble, je considère que la question de l'existence de Dieu n'est pas une question scientifique, et qu'il faut se méfier, vraiment, j'allais dire, comme de la peste, puisqu'on parlait de Camus, on peut parler de la peste, hein, de ces tentatives de dire, ah, mais vous savez, les sciences montrent que quand même, etc. Il me semble qu'il y a là une imposture. Les sciences de la nature sont compétentes sur des phénomènes naturels, sur des entités, des structures naturelles ou physiques, hein. L'existence de Dieu, par définition, c'est quelque chose de surnaturel. Mais le fait que l'existence de Dieu, comme éventuel fondement des droits de l'homme, ne soit pas un objet des sciences de la nature, ne veut pas dire pour autant que c'est totalement irrationnel. On a le droit de se poser des questions sur le fait même qu'il existe un monde avec des lois, avec des objets, etc. Et ça, c'est une question, je me permets de vous renvoyer la balle, c'est une question que vous avez justement su distinguer de la question scientifique en posant à propos de l'univers, la question des origines de l'univers, en faisant la distinction entre la question d'où vient l'univers, qui est une question de traçabilité physique avec des interpolations, des extrapolations, des modèles quantiques ou relativistes de la singularité.
D'où vient qu'il y a
et d'où vient qu'il y a un univers. Et ça, c'est la question métaphysique sur laquelle le philosophe, comme tout homme ou toute femme dans ce monde, a le droit de raisonner.
Oui, mais vous savez très bien qu'il y a des religieux qui expliquent que l'univers a 6000 ans. Est-ce que raisonner leur discours, c'est leur expliquer qu'en fait, il a été démontré que l'univers a au moins 13 milliards d'années et que les discours qui disent qu'il n'a que quelques milliers d'années sont objectivement faux?
Alors là où, évidemment,
que ça fait partie du travail.
Oui, bien entendu. Là où il y a une interface, c'est qu'il serait absurde et même suicidaire pour Dieu de créer un monde dans lequel une lecture des indices ou des données observationnelles dont on dispose contredit ce qu'il révèle par ailleurs. Et donc, à quelqu'un qui me dit « Non mais l'univers n'a que 6000 ans et c'est pour confondre l'orgueil de savants que vous trouvez des fossiles dans la Terre », je dirais « Voilà, donc, vous me demandez de croire à un dieu trompeur, un dieu qui truque sa création, un dieu qui fait que quand j'use correctement de ma raison, pour mesurer les âges et dater les origines de l'explosion initiale, eh bien, je me trompe. Un tel dieu, alors, qui truque sa création, qui piège la raison qu'il a octroyée aux hommes, et là je reviens à Diderot, est un faiseur de tours de gypsière qui escamote d'une main ce qu'il a donné de l'autre.
Ben, ça veut dire qu'on se trompe à propos de ce qu'on croit qu'il a dit.
Ouais, forcément. C'est ce que Averroès, au deuxième siècle, a commencé à dire. C'est... Lorsqu'il y a contradiction entre les données de la démonstration rationnelle et le texte révélé, Averroès dit, eh bien, il faut réviser l'interprétation de la révélation.
Mais
parce que nous n'avons que la raison pour pouvoir discerner, y compris ce qui nous est proposé à titre de révélation.
Et donc, d'après vous, il ne devrait pas y avoir de religion sans réévaluation de son interprétation.
Bien entendu. Bien entendu.
Et c'est là le travail de la raison.
Ouais. Bien entendu. Et je pense que, alors, vous savez, il y a des doctrines religieuses qui vont très loin dans ce sens. Moi, je vois je suis plaidé pour ma chapelle. La doctrine catholique prétend que sans l'usage de la raison, on ne peut pas recevoir la révélation.
Expliquez.
Eh bien, vous ne pouvez, si vous vous promenez dans le désert et que vous dites, ah ben Dieu m'a parlé, etc., ben ça peut être n'importe quoi, il peut vous dire n'importe quoi. Si vous utilisez votre raison, vous dites, bon alors attendez, pour que je sois le destinataire d'une révélation, eh bien, il faut que je reconnaisse par ma raison que l'univers s'est pas fait tout seul et qu'il a probablement une origine surnaturelle. Donc je suis pour le simple fait d'identifier quelque chose comme une révélation suppose que j'ai fait cet exercice rationnel qui consiste à dire, j'ai des bonnes raisons de penser que l'univers n'auto-existe pas. Parce que si l'univers auto-existe, il n'y a pas de révélation. Il est causalement clos, et seules des illusions d'optique ou des hallucinations auditives peuvent me faire croire qu'un buisson se met à se consumer sans se détruire, enfin brûler sans se consumer, et qu'une voix m'appelle par mon nom en me disant « Moïse, ôte tes sandales et va libérer mon peuple. Let my people go ».
Alors, Paul Clavier, votre livre s'intitule « Anathème, blasphème et compagnie ». Il est sorti il y a peu de temps. Est-ce que vous avez des réactions, d'une part du côté des religieux, d'autre part du côté des philosophes? Vous êtes quand même un drôle d'oiseau dans le domaine de la philosophie.
J'espère que je suis un oiseau drôle, surtout.
Ça, c'est clair, je vous l'ai dit.
Parce que, encore une fois, c'est en décoinçant nos crispations qu'on rétablit un dialogue. Oui, j'ai des réactions. Alors, c'est pas l'ovation, c'est pas la standing ovation, soyons modestes. Mais les gens, j'allais dire d'un bord et de l'autre, voient bien que je n'essaie pas de monter les uns contre les autres, mais que je réclame en tant que philosophe et en tant que citoyen de la planète le droit de que puisse être rédigé de bon cœur et de bonne foi par tout le monde, un modus vivendi, une règle de cohabitation vraiment universelle.
Paul Clavier, vous avez répondu à propos, je pense, de sorte de public général qui a accueilli votre livre plutôt avec bienveillance, d'après ce que j'ai compris. Mais du côté de la philosophie, comment est-ce que vous vous situez? Est-ce que c'est des sujets qui intéressent vos collègues? Est-ce que vous passez pour un original, un électron libre, comme on dit chez les physiciens?
Il faut reconnaître qu'en philosophie, c'est un peu un sujet qui fâche. Les gens veulent dire, pourquoi voulez-vous fonder la morale? Le relativisme est quand même souvent accepté, quoique pas explicitement. Les gens ont dit, attendez, la morale, l'obligation morale, les droits de l'homme, oui, mais pas Dieu. Mêlez pas Dieu à ça, surtout par les temps qui courent.
Une morale laïque.
Voilà, morale laïque. Mais là, moi, je pose la question du fondement de cette morale, et je pense qu'elle peut être théiste, sans être confessionnel. Alors, je n'ai pas encore convaincu mes collègues, mais écoutez, on est des êtres d'histoire, il faut prendre le temps, je ne vais pas les convertir de force, parce que ça a déjà été essayé, et l'effet a été plutôt l'effet d'une rébellion légitime contre ces croyances imposées qu'il n'y avait pas de bien et de mal sans Dieu. Bon. Il faut être patient, regardez comme Sartre, à la fin de sa vie, finit par dire, oui, au fond, c'est vrai, s'il y a une exigence absolue, cet absolu, c'est quoi? Et en un sens, Dostoïevski a raison, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Mais moi, je dis, le raisonnement est simple. Si véritablement il n'y a ni Dieu ni maître, alors, comme dit Jules Grave, le fondateur de la doctrine anarchiste, ou l'un de ses promoteurs, chacun n'obéit qu'à sa volonté. Et je ne suis lié à rien, je fais ce que je veux selon mon intérêt.
Mais est-ce que vous pensez qu'adviendra un jour ce que Kant appelait une paix perpétuelle? Dès lors que les fondements que vous réclamez seront partagés.
Je l'espère, je ne le pense pas, là je suis réduit à l'espérer, mais je dirais que c'est pas grave que je ne fasse que l'espérer, parce que c'est quand même tout l'intérêt du dialogue, du débat, c'est-à-dire les gens aspirent à la paix, mais considèrent que surtout il faut pas mêler une transcendance là-dedans, parce que transcendance égale absolu, absolu égale persécution, persécution égale injustice, etc. Eh bien, il y a peut-être une autre façon de vivre le rapport à la transcendance, hein, que cette façon craintive ou cette réaction selon laquelle il faudrait l'expulser à toute force.
Ça veut dire que les religions ne sont pas par essence dangereuses. Ce qui est dangereux, c'est plutôt les religieux dans certains
Exactement,
cas.
Exactement, tout à fait.
Et donc, il faudrait en quelque sorte débarrasser les religions des religieux.
Non, il faudrait débarrasser les religieux de leurs préjugés selon lesquels raisonner leur fera perdre le sens de leur vie. Voilà. Et on vit trop souvent dans l'opposition pascalienne de la foi et de la raison, alors qui est souvent caricaturale, parce que Pascal est le premier à dire que c'est une démarche de la raison qui doit m'obliger à reconnaître qu'il y a des choses qui sont au-dessus de la raison. Hein. Mais si vous voulez, le Pascal de Devanture, qui sépare Dieu sensible au cœur, non à la raison, eh bien ce Pascal-là, ce Pascal publicitaire, est à mon avis coupable d'une sorte de fracture. Hein, la fracture rationnelle.
C'est-à-dire qu'on peut toucher à la fois le cœur et la raison.
Oui, oui. Mais nous n'avons qu'une vie, Étienne Klein, vous n'avez qu'une vie, moi je n'ai qu'une vie, et vouloir la séparer en deux avec un compartiment, je vais croire ce que je veux, mais d'un autre côté, la raison me dit non. Hein. Et sinon, on tombe dans la schizophrénie qu'a doucement moqué Woody Allen lorsqu'il dit « Dieu n'existe pas, mais nous sommes son peuple élu ».
There is no God, but we are chosen people.
C'est ça. Alors, on vit là. On aimerait bien être sauvé quelque part, parce qu'on voit bien qu'on s'en sortira pas tout seul et qu'on a besoin d'un fondement du respect inconditionnel dû à chacun. Mais, pour avoir l'air bien chic, on va dire non, mais rassurez-vous, je suis moderne, pour moi, Dieu n'existe pas. On peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. Le beurre et l'argent du beurre, l'onction et l'argent de l'onction.
Merci Paul Clavier, vous nous avez expliqué qu'en effet la situation est compliquée, comme disent les footballeurs à propos du prochain match, le match va être compliqué, mais vous nous avez donné quelques raisons d'espérer. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Catherine Madure, à la technique Philippe Palares et à la réalisation François Connac. tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Projection privée par Michel Simon.